Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Il y a quelques semaines, j'avais parlé du sommeil spirituel et de l'importance de rester éveillé. Et j'ai aimé ce qu'a dit le frère dans sa prière, que son esprit nous vivifie. L'esprit de Dieu nous vivifie. On a besoin de cet esprit qui nous vivifie pour ne pas s'endormir. Alors, je vais continuer sur ce thème ce matin, du sommeil spirituel et de l'importance de rester éveillé. Nous devons rester éveillés pour plusieurs raisons. Nous en avons vu deux la semaine dernière, ou il y a 15 jours, et nous allons en parler de deux autres ce matin. On va commencer par lire dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13 et au verset 11, Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Rester en éveil spirituel, c'est une question de vie ou de mort spirituelle. Je ne plaisante pas, c'est vraiment ça, c'est vraiment sérieux. Rester en éveil spirituel, c'est une question de vie ou de mort spirituelle, c'est très sérieux. Ce n'est pas un sujet léger, et se tenir éveillé, c'est quoi? C'est tout simplement se tenir prêt pour le retour de Jésus. J'ai entendu plusieurs fois ce matin des prières qui parlaient du retour de Jésus. C'est une réalité pour nous chrétiens. Ça doit être une réalité pour nous chrétiens, le retour de Jésus. Se tenir éveillé, c'est attendre Jésus. Se tenir éveillé, c'est combattre. C'est combattre avec persévérance. Pourquoi? Parce que le sommeil nous guette. Le sommeil est là, le sommeil est présent. Le sommeil, c'est difficile de lutter contre le sommeil. Quand l'envie de dormir vous prend, vous avez les yeux qui piquent, vous avez la nuque qui se raidit, vous avez la tête qui devient lourde, c'est très difficile de lutter contre le sommeil. Pourtant, spirituellement, c'est très important de lutter contre le sommeil et de ne pas s'endormir. Donc, il y a quelques semaines, j'avais parlé sur ce thème et on avait vu ensemble que rester éveillé, c'est évangéliser. Rester éveillé, c'est évangéliser. Et rester éveillé, c'est aussi renouveler sa sagesse. Voilà deux raisons pour lesquelles nous devons rester éveillés. Et ce matin, nous allons parler de deux autres raisons qui font que rester éveillé est indispensable. La première, c'est être éveillé, c'est travailler. Être éveillé, c'est travailler. Et deuxième raison, être éveillé, c'est prendre soin, être attentif, prendre soin de son onction. Prendre soin de son onction. Alors, premier point, être éveillé, c'est travailler. Nous allons lire ensemble dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, à partir du verset 1, cette parabole que Jésus a donnée, qui est la parabole des talents. Matthieu 25, à partir du verset 1. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Amen. Amen. Donc, dans la parabole des talents, Jésus nous parle de cet homme, ce maître, qui confie ses biens à des serviteurs, à 3 serviteurs, avant de partir en voyage. Et la parole nous dit que il a donné à chacun selon sa capacité. Il a donné 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 talent au troisième. Il donne à chacun selon sa capacité. Jésus nous donne à tous. Peut-être selon nos capacités, mais Jésus donne à chacun. Jésus nous donne à toutes et à tous des talents. Nous avons toutes et tous des talents qui nous viennent de Dieu. Et il attend quoi ? Il attend de nous que nous travaillions. Le mauvais serviteur avait caché ce talent. Il ne l'avait pas fait travailler. Jésus attend que pendant son absence et avant son retour, il attend que nous travaillions. Il attend de nous un travail. Il ne nous donne pas les talents pour nous faire plaisir. Il ne nous donne pas les talents pour nous amuser. Il ne nous donne pas les talents pour les gaspiller. Il ne nous donne pas les talents pour faire n'importe quoi. Il nous donne les talents pour faire un travail pour lui. Si nous n'utilisons pas nos talents pour faire le travail qu'il nous a commandé, nous gaspillons nos talents. Nous avons toutes et tous des talents. Toutes et tous. Nous avons déjà un simple talent que Dieu nous a donné. C'est sa parole. Nous pouvons lire la parole de Dieu. C'est déjà un talent. Peut-être certains ne peuvent pas lire. Alors ils peuvent entendre. Ils peuvent entendre. Nous avons toutes et tous au moins un talent, voire 2. Lire, comprendre, voir, écouter la parole de Dieu. Nous avons toutes et tous ces talents. Et ces simples talents, déjà ces simples talents, Dieu attend de nous que nous y travaillions. Travailler, c'est quoi ? C'est bien sûr écouter, consulter, méditer, s'approprier, réfléchir avec persévérance et tous les jours, et le partager et le répéter inlassablement et tous les jours. Voilà déjà un travail que chacun à son niveau peut faire. Un travail que chacun à son niveau peut faire pour Jésus. C'est à la portée de tout le monde. Ça ne coûte rien. Ça ne demande pas de prendre des cours. Si, il faut apprendre à lire. En général, à partir du CP, on y arrive. Si on n'y arrive pas, on peut demander aussi de l'aide. On peut demander aussi au Seigneur de nous aider à apprendre à lire. Mais nous avons tous ces talents-là. Ces talents-là, nous les avons toutes et tous reçus. Si nous ne les utilisons pas, alors nous les gaspillons. Et nous sommes comme le mauvais, méchant et paresseux serviteur. Le mauvais serviteur, il s'est endormi. Il a caché le talent dans la terre et il s'est endormi. Il s'est endormi spirituellement. C'est le parfait exemple de celui qui s'endort. Donc, sachons bien ceci, frères et sœurs, sachons bien ceci. C'est que si nous dormons, si nous enterrons le talent, un jour, Jésus reviendra et nous demandera ce que nous avons fait du talent. Un jour, il va revenir et il va nous demander ce que nous avons fait du talent. Que dirons-nous ? Nous dirons comme le mauvais serviteur, je l'avais enterré, je te le rends, il est à toi. En fait, ce que l'on voit au travers de cette parabole, c'est que le temps passe et pendant que le temps passe, le cœur se révèle. Au départ, il y a 3 serviteurs. Alors il donne à chacun selon sa capacité, mais il donne à chacun. Et ils sont tous les 3 serviteurs. Au départ, il n'est pas appelé mauvais ou paresseux. Il est appelé serviteur, comme les 2 autres. Et Jésus lui a donné, le maître lui a donné, en fonction de sa capacité. Et lui n'a pas travaillé. Mais on voit qu'avec le temps, le cœur des 2 premiers serviteurs s'est révélé comme étant des cœurs de travailleurs, des personnes qui sont reconnaissantes de ce qui leur a été confié. qui ont envie de bien faire, qui ont envie de faire fructifier ce qu'elles ont reçu, alors que le troisième serviteur, son cœur se révèle comme étant un cœur de paresseux. Le temps, mes frères et sœurs, le temps révèle la vraie nature de nos cœurs. Au début de nos conversions, très souvent, on est tout feu, tout flamme. On est enflammé, on est bouillant, toutes et tous. On a rencontré Jésus, on a compris qu'on est sauvé, on a découvert sa parole et on est comme des balles en fait. Ça saute de partout, on est bouillant. Et puis, le temps passe. Le temps passe et le temps révèle les cœurs. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce que tu es toujours bouillant ou est-ce que petit à petit tu t'es refroidi jusqu'à t'endormir? Ça, c'est une vraie question. Au début de nos conversions, on est à fond, on est très régulier à l'église, on lit la parole, on écoute des louanges, on écoute des cantiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on écoute comme musique? Nos lectures, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde plus les séries sur Netflix ou est-ce qu'on regarde plus notre Bible? Le temps passe. Le temps passe et il amène les choses et il révèle les cœurs. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ça, c'est une bonne question qu'on peut toutes et tous se poser. Par rapport à ma conversion, j'en suis où? Est-ce que j'ai progressé? Est-ce que j'ai stagné? Est-ce que j'ai régressé? J'en suis où? Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé la dernière fois de Ticus, ce garçon qui est dans la chambre haute et qui chute de 3 étages. Il y a des chrétiens comme ça qui sont entre le 3e étage et le sol. Ils ont commencé à chuter. Ils sont encore vivants. Ils sont encore vivants. Ticus, il est mort quand il a touché le sol. On est encore vivants. Tant qu'on chute, on est encore vivants. 3 étages, ça représente à peu près un immeuble d'une hauteur de 8 mètres. C'est très haut. 8 mètres, c'est très haut, mais il faut à peine une seconde, à peine un peu plus d'une seconde pour passer du 3e étage au sol. Donc ça peut aussi aller très vite. Si on n'y prend pas garde, si on s'endort, la chute peut être rapide, elle peut être mortelle. Donc ça nous amène à nous poser des questions. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous faisons des talents que nous avons reçus, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ce que nous faisons, c'est la volonté du Père? Est-ce que nous sommes bien dans ce plan-là? Ou bien est-ce que nous gaspillons nos talents à autre chose, à des choses qui nous servent à nous, des choses qui nous font plaisir à nous, mais qui ne servent pas Dieu? Ça pose aussi la question, la vraie question. Si tu n'utilises pas tes talents, si tu t'es endormi, est-ce que tu crois vraiment que Jésus va revenir? Est-ce que tu le crois vraiment? Ou est-ce que tu n'y crois pas? Ou est-ce que tu n'y crois plus? Ou est-ce que tu as oublié? Parfois on a oublié peut-être. Ah, j'ai oublié, oui, c'est vrai, en fait, Jésus doit revenir. Donc, le temps passe, il révèle les cœurs, et pendant ce temps-là, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, on continue sur parfois un mauvais chemin. Et quand le maître est revenu, qu'est-ce qu'il a fait? Quand le mauvais serviteur lui a rendu son talent, il l'a mis dehors. Il l'a mis dehors. Quand j'étais plus jeune, je lisais cette parabole et je pensais que le bon comportement, c'était celui du troisième serviteur. Parce que je me disais, en fait, il prend le talent, mais il l'enterre, c'est-à-dire qu'il le protège, il ne le risque pas. Parce que si on donne l'argent au banquier, en tout cas, moi, c'est la première idée qui me vient, si j'investis l'argent, est-ce que le banquier ne va pas me dire dans un an, dans 2 ans, le capital a fondu, il s'est passé une crise boursière, tu m'avais donné 5 talents, je t'en rends 2. Je m'étais fait cette réflexion et je me dis pourquoi en fait on reproche au troisième serviteur d'avoir enterré le talent. C'est prudent. C'est prudent. Il est sûr de rendre à son maître ce qu'il lui a confié, quelque part. En fait, non. Ce que Jésus attend de nous, ce n'est pas cette attitude-là. Il nous a donné des talents, mais nous devons les exploiter. Peut-être au risque de se tromper, peut-être au risque de se brûler les ailes, je ne sais pas comment le dire. Mais nous devons utiliser nos talents, nous devons montrer nos talents. Nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas avoir honte de nos talents. Au contraire, Dieu nous a donné des talents, nous devons en être fiers. Et nous devons les travailler. Peut-être que si nous n'osons pas les montrer, c'est parce que nous ne les avons pas travaillés. Et comme nous ne les avons pas travaillés, nous ne les maîtrisons pas. Ça, c'est possible. Mais ça nous appartient à nous. C'est à nous de le travailler. C'est à nous de demander à Dieu de nous aider à le travailler, peut-être aussi, de nous donner les personnes qui vont nous aider à travailler ces talents-là. Il y a une chose qui est importante à comprendre, je crois, c'est que partir avec Jésus, ça n'est acquis pour personne. Il n'y a rien de sûr, ni pour vous, ni pour moi, ni pour personne. Personne. Jésus reviendra. Quand il reviendra, il nous demandera des comptes. Et quand nous lui rendrons des comptes, c'est lui qui jugera si nous avons été fidèles ou pas. Ce n'est pas nous sur cette terre, ce n'est pas moi qui dis, je ne fais pas mon autobilan en disant est-ce que j'ai été fidèle. Non, c'est lui. C'est lui qui jugera. Et nous n'avons pas à nous juger les uns les autres non plus. Non plus. Quand on fait une course de... Si on s'engage dans une course à pied, par exemple, une course de 10 tours de terrain, si au bout du premier tour, on est premier, et que par la suite de la course, on finit dernier, à la fin des 10 tours, on dira qu'on est dernier. On ne dira pas qu'on était un peu premier. On ne dira pas qu'on était... c'était quand même pas mal. Parce qu'à la fin du premier tour, tu avais tout donné. Non, ça ne marche pas comme ça avec Jésus. Soit nous aurons été fidèles, soit nous aurons été infidèles. Le méchant serviteur, il a fini dehors. Pourtant, au départ, c'était un serviteur. Et même à la fin, le maître l'appelle encore serviteur. Mais serviteur méchant et paresseux. À la fin, c'est encore un serviteur. Ça veut dire qu'on peut servir longtemps, mais mal. Et finir dehors. C'est possible. Nous devons vraiment avoir conscience de ça. Jésus jugera à son retour de ce que nous avons fait, des talents qu'il nous a donnés. Il nous a donné des talents à toutes et tous. Nous devons les connaître. Si nous ne les connaissons pas, nous devons prier pour les connaître. Et une fois que nous les connaissons, nous devons les travailler, les manifester, les partager avec nos frères et sœurs. Jésus a dit, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Notre position sur cette terre déterminera la part que nous aurons dans le royaume des cieux. À la fin de la parabole, le maître prend le talent du mauvais serviteur et il le donne à celui qui a fait valoir les 5 talents. Il n'a plus rien. Même le talent qui lui avait été donné au départ, il ne l'a plus. On lui a retiré. Celui qui ne prend pas garde à ce que Dieu lui a donné, celui qui ne le travaille pas, il est dans une spirale, il est dans une chute. Et quand il arrive au bout de la chute, il n'a plus rien. Et on lui prend même ce qu'il n'a pas. Donc ne dormons pas, restons réveillés, travaillons sans relâche à ces talents que Dieu nous a donnés. Deuxième point, être réveillé, c'est prendre soin de son onction. Prendre soin de son onction. Nous allons lire dans le livre des Juges, chapitre 16, au verset 18. Juges 16, 18. Delila, voyant que Samson lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil. Et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. L'histoire de Samson, vous la connaissez, je pense, toutes et tous. Moi, quand j'étais petit, c'était mon histoire favorite dans la Bible. Je pense que je l'ai lu des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire des centaines de fois, parce que les exploits de Samson me parlaient. J'étais un enfant, donc j'aimais les exploits de Samson. Mais quand j'étais plus grand, et que je lisais l'histoire de Samson, je n'aimais plus du tout cette histoire. Vraiment, cet homme, voilà un homme endormi, voilà un homme qui a gaspillé les talents que Dieu lui avait donnés. Samson était un Naziréen. Naziréen, ça veut dire... Alors, ça ne veut pas dire qu'il venait de Nazareth, ça n'a rien à voir. Naziréen, ça vient du mot Nazar, du mot hébreu Nazar. Le mot hébreu Nazar, c'est se réserver, se consacrer. C'est ça. Le mot Nazar, c'est se consacrer. Et Samson était consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Dès avant sa naissance, il était consacré à Dieu. Il y a d'autres personnages dans la Bible qui sont dans ce cas, par exemple Samuel. Dès la grossesse d'Anne, sa mère, il était réservé pour Dieu. Par exemple, Jean-Baptiste aussi. Donc c'était un Naziréen, et le fait d'être Naziréen, ça voulait dire qu'il était consacré à Dieu, ça lui donnait des obligations pour préserver justement cette consécration. Il ne devait pas boire d'alcool, il ne devait pas couper ses cheveux, il ne devait pas raser sa barbe, il ne devait pas se rendre impur, c'est-à-dire qu'il ne devait pas toucher de cadavres, d'hommes, d'animaux. Donc il devait se préserver, il devait se consacrer à Dieu. Et parce qu'il était naziréen et parce qu'il était consacré à Dieu, Samson est un homme, il y a peu d'exemples comme ça dans la Bible, mais c'est un homme qui avait reçu une onction extraordinaire. Dieu lui avait donné une onction extraordinaire. C'est quoi l'onction? C'est un mot qu'on entend, qu'on lit dans la Bible, c'est un mot qu'on utilise parfois dans des expressions comme « j'ai reçu l'onction »,« j'ai senti l'onction »,« il y avait l'onction », »,« l'onction ». Donc pour comprendre le sens de ce mot, on va s'appuyer sur la parole de Dieu, c'est toujours ce qu'il a de mieux à faire. Pour bien connaître et comprendre, on va lire dans l'évangile de Luc, chapitre 4 et verset 14. Luc 4, 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays alentour. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Il y a l'esprit et il y a la puissance de l'esprit. Il y a l'esprit et il y a ce que l'esprit donne. Et qu'est-ce que donne l'esprit? L'esprit donne la puissance de l'esprit. Et Jésus était revêtu, c'est ce que nous dit la parole. Jésus était revêtu de la puissance de l'esprit. Donc il y a un revêtement. Il y a un revêtement de la puissance que l'esprit donne. C'est ça l'onction. On peut lire aussi dans Luc chapitre 4 verset 18. Luc 4, 18, Jésus parle et dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Il y a donc une onction sur Jésus qui vient de l'Esprit. Donc l'onction, c'est ça. C'est ce que nous donne l'Esprit Saint. C'est la puissance que nous donne l'Esprit Saint. C'est la puissance dont nous revêt l'Esprit Saint. L'onction, ce n'est pas une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Mais l'onction, c'est ce que donne le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous prions le Saint-Esprit, mais nous ne prions pas l'onction. L'onction vient du Saint-Esprit. Nous prions le Saint-Esprit. L'Esprit nous donne cette onction qui est aussi un revêtement. L'onction est aussi un revêtement. L'onction, c'est un revêtement que Dieu nous donne pour accomplir une œuvre spirituelle. L'onction, c'est un revêtement que Dieu nous donne pour accomplir une œuvre spirituelle. Quelque part, c'est un talent. C'est ça. Un talent spécial. Une onction, c'est un talent spécial que Dieu nous donne à chacun, chacune et chacun. Une onction particulière. L'onction que l'un va avoir ne sera pas l'onction que l'autre aura. Mais c'est un revêtement particulier, un revêtement donné par Dieu pour accomplir une œuvre spirituelle. C'est pour cela que parfois, dans la parole, on lit, et Jésus d'ailleurs le dit, il est revêtu, donc il sent un revêtement. Cette onction, elle coule. Elle coule comme un vêtement. Jésus le dit, il a été revêtu. Vous connaissez aussi l'histoire d'Élisée qui reçoit le manteau d'Élie. Vous connaissez cette histoire dans la Bible. Souvent, l'onction, elle est imagée comme ça dans la Bible, comme un manteau. Quelque chose qui nous recouvre, c'est quelque chose qui est sur nous, quelque chose qu'on peut ressentir sur nous. Et donc je disais qui est donné par Dieu pour accomplir une œuvre spirituelle, on peut le lire dans Luc 4, 18 et 19. Jésus donc dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » pour guérir, pour sauver. Jésus a reçu l'onction pour faire. Il a reçu un talent de la part de Dieu pour réaliser son plan. Donc nous recevons toutes et toutes cette onction, mais est-ce qu'on en a conscience ? Quand nous recevons cette onction, est-ce que nous avons conscience de l'avoir reçue ? Est-ce que nous avons conscience de ce que nous devons en faire ? Nous devons prier, nous devons rechercher la volonté de Dieu. Cette onction, nous ne devons pas la gaspiller. On va parler de Samson, lui, il a gaspillé son onction. Il a piétiné son onction. Il n'en avait rien à faire. Ça ne l'intéressait pas. La seule chose qui l'intéressait, c'était les exploits que l'onction lui donnait de faire. Ça, il aimait. Mais la consécration qui allait avec l'onction, il n'en voulait pas. Et nous devons être consacrés. Recevoir l'onction en soi, c'est rien du tout. Ça ne sert à rien du tout. Si vous n'en faites rien, elle ne sert à rien du tout. Dieu ne donne pas l'onction pour nous. Dieu nous donne l'onction pour que nous en servions pour les autres. Pour les autres. Et Samson, son problème, c'était ça. C'était quelqu'un d'égoïste. Il avait reçu l'onction, mais il l'utilisait pour lui. Pour lui et rien que pour lui. Quand l'Esprit donne l'onction, quelque part, il investit sur nous. C'est comme l'histoire du talent. C'est un investissement. Ça doit fructifier. Ça doit se développer. Ça doit produire des fruits. Et un jour, Jésus reviendra et nous demandera ce qu'on a fait de cette onction. Qu'est-ce que tu as fait de ce que tu as reçu ? Est-ce que tu as dormi ? Est-ce que tu l'as gaspillé ? Quand Samson s'est réveillé de son sommeil, vous avez entendu, il s'est réveillé de son sommeil et il s'est dit, bon, allez, je vais tuer les Philistins comme d'habitude. Mais l'esprit s'était retiré de lui. Il arrive un moment où, si on n'utilise pas le talent que Dieu nous a donné, si on n'utilise pas l'onction que Dieu nous a donnée, l'esprit se retire et l'onction se retire avec. On voit que Samson, dès sa jeunesse, ne respecte pas son onction. Il ne respecte pas la consécration qui va avec l'onction. C'est typiquement le croyant endormi. Il est endormi. Un jour, il croise un lion sur son chemin et il tue ce lion à main nue. Et la parole dit que l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel l'avait saisi. Donc on voit bien là qu'il y a une puissance. Pour tuer un lion à main nue, il faut une puissance surhumaine, surnaturelle. C'est ce qui s'est passé. Et il tue ce lion. Et puis, quelque temps plus tard, il revient sur le cadavre du lion. Il revient sur le cadavre du lion alors que il ne passait pas par là. Je veux dire, il a fait un détour. Il est venu particulièrement pour aller vers ce cadavre du lion. Alors que c'est un Naziréen, il le sait, il est consacré. Il ne doit pas s'approcher de cadavre. Pourtant, il le fait. Il y va. Il va du cadavre. Et dans le cadavre, il y a un essaim d'abeilles. Il prend du miel. Il mange le miel. Il donne du miel à ses parents. Et ses parents lui demandent d'où vient du miel, d'où vient le miel. Et il ne répond pas. Il ne répond pas parce qu'il a honte. Il est conscient de ce qu'il fait. Il est conscient qu'il ne respecte pas sa consécration. Il est conscient qu'il piétine l'onction qu'il a reçue. Il en est conscient, mais il le fait quand même. Il mange quand même le miel. Donc c'est typiquement Samson, la personne qui a reçu l'onction, mais qui, par son égoïsme, ne la respecte pas. Samson, c'est vraiment un égoïste. Si vous lisez l'histoire de Samson du début à la fin, vous allez voir qu'il a utilisé l'onction vraiment de façon égoïste, pour lui et rien que pour lui. Quand il tue le lion, c'est pour sauver sa vie. Quand il fait couler l'eau du rocher, c'est pour sa soif. Quand il tue des Philistins, c'est pour sa vengeance. Même à la fin de sa vie, quand il prie, je crois que c'est la seule fois même de toute son histoire où on le voit prier, il prie pour demander à Dieu de lui donner de la force pour se venger de ses deux yeux. De ses deux yeux. Il est égoïste. Il prie rarement, mais quand il prie, c'est pour lui. Et quand il utilise son onction, c'est pour lui. Nous n'avons pas reçu de talent pour nous. Dieu ne nous a pas donné son onction pour nous. Il nous l'a donné pour les autres. L'utiliser pour les autres. C'est ça, faire le travail de Dieu. C'est ça, rester éveillé. Prendre soin de son onction, c'est rester éveillé, c'est travailler pour Dieu, c'est travailler pour le retour de Jésus, c'est avancer le retour de Jésus. qui est troublant avec Samson, c'est que son histoire avance et puis on voit que malgré tout ce qu'il fait, malgré le fait qu'il ne respecte pas sa consécration, et même pire, il fait le mal, il massacre des hommes gratuitement, il couche avec des femmes, il couche avec des prostituées, il fait n'importe quoi. Et malgré ça, on voit que cet homme, il a toujours une onction avec lui. C'est troublant, c'est vraiment troublant. Et ça, c'est un point sur lequel il faut bien comprendre que on peut avoir une onction même si on fait des choses qui ne sont pas bien, même si on fait des choses qui ne sont pas en règle avec la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quelqu'un qui a l'onction, ce n'est pas quelqu'un qui a forcément l'esprit en lui. Ce n'est pas parce qu'il y a une onction sur moi que j'ai le Saint-Esprit en moi. Recevoir l'onction, ça veut dire qu'un jour, le Saint-Esprit m'a donné une onction. Je ne sais pas ce que j'en ai fait depuis. Un jour, j'ai reçu une onction pour réaliser un travail. Un jour, le Saint-Esprit m'a donné son onction pour réaliser une œuvre spirituelle. Mais qu'est-ce que j'ai fait de cette puissance ? Qu'est-ce que j'ai fait de cette onction ? Samson, il avait cette onction. Mais on va voir que l'esprit s'est retiré de lui. Je ne sais pas si vous connaissez les serpents venimeux, mais si vous coupez la tête à un serpent venimeux, même si la tête est coupée, pendant plusieurs heures, même plusieurs jours, il ne faut pas prendre la tête du serpent dans sa main, parce que le serpent peut vous mordre encore. Vous savez ça ? Non ? Ben vous verrez. Renseignez-vous. Je vais prendre un autre exemple, plus sympa. Si vous coupez des fleurs, messieurs, si vous coupez des fleurs pour faire un joli bouquet pour votre épouse, pour votre chérie, faites un joli bouquet de fleurs. Vous coupez les fleurs, vous mettez les fleurs dans un vase. Plusieurs jours après, les fleurs, elles sont encore belles. Il y a même des fleurs qui continuent à pousser après qu'on les a coupées. Pourquoi ? Parce que dans la tige, il y a encore de la sève, il y a encore de la vie. On regarde les fleurs, on croit qu'il y a de la vie, mais elles sont mortes. Mais c'est ça l'onction. Vous voyez quelqu'un, vous dites ce gars, il a une onction, mais il fait le mal, je ne comprends pas. Oui, il a l'onction. Un jour, l'esprit lui a donné l'onction. Mais un jour, ça va s'arrêter. Un jour, ça ne continuera pas. Un jour, comme Samson, ça va se terminer. Et pour Samson, ça s'est terminé chez Delilah. Ça s'est terminé, c'est le passage qu'on a lu tout à l'heure. C'est là que ça s'est terminé pour Samson. Samson, il est allé trop loin. Samson, il a joué avec le feu. Il a cru qu'il pouvait jouer avec le feu comme ça, qu'on peut jouer avec ce que Dieu nous a donné. Delilah voulait savoir quel était son secret. Elle lui a demandé par deux fois, mais Samson, dis-moi, d'où vient ta force ? D'où vient ta force ? Alors il invente des histoires, ça vient des cordes fraîches, si on me lie avec des cordes fraîches ou pas fraîches. Deux fois, il joue, il s'amuse, il rentre dans le jeu. Il rentre dans le jeu. Il est très 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 loin de la destinée que Dieu avait prévue pour lui. Il est avec cette femme, Delilah, qui n'est pas sa femme. Il est chez elle, il couche avec elle. Et il joue avec cette onction. Il joue avec tout ça. Et l'erreur qu'il a faite, je crois, parce que c'est vraiment précis, c'est qu'il lui a ouvert tout son cœur. Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il lui a ouvert tout son cœur. Il lui a ouvert tout son cœur. Et la troisième fois, il a cédé. Il a révélé à Delilah comment faire pour lui enlever sa force. C'était la foi de trop. Il a trop joué. Il s'est trop amusé. Il a joué avec son onction. Il a gaspillé son onction. Et il a cru qu'il pouvait faire ça longtemps. Mais non, ça s'est arrêté. Il s'est endormi. Il s'est endormi sur les genoux de Delilah. Et le pire, c'est que quand il s'est réveillé, on l'a lu tout à l'heure, lui il croyait qu'il allait une fois de plus s'en sortir, qu'il allait une fois de plus massacrer les Philistins parce que l'Éternel était avec lui. Mais la parole dit que l'Éternel s'était retiré de lui. Il s'était retiré. Et ce qui est dramatique, et c'est là qu'on voit qu'il a vraiment tout foutu en l'air, il a vraiment tout gaspillé, c'est qu'il ne s'en était pas rendu compte. Il est arrivé à un point où il ne percevait même plus la présence de l'Esprit. Il ne le percevait même plus. Il ne faisait même plus la différence entre « l'Éternel est avec moi, l'Éternel n'est pas avec moi ». Cet homme était complètement endormi. Il était endormi, il était dans le noir, il était perdu. Tellement que, et je crois que c'est vraiment la matérialisation de ce qu'il avait dans son cœur, on l'a dit tout à l'heure que le cœur révèle ce qu'il y a, le temps révèle ce qu'il y a dans nos cœurs. Samson, il est mort aveugle, on lui a crevé ses deux yeux. Il est mort comme il a été toute sa vie, en fait. Il a vécu une vie d'aveugle spirituel et il est mort un aveugle matériel, corporel, physique, charnel. Voilà l'histoire de Samson. Donc Jésus reviendra un jour, moi j'y crois, il va revenir et il va nous demander des comptes. Qu'est-ce que tu as fait de ton talent? Qu'est-ce que tu as fait du talent que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait de ton onction? Voilà pourquoi je dis que l'éveil spirituel, c'est prendre soin de son onction. Nous devons prendre soin de cette onction que nous avons reçue. Nous devons fuir l'exemple de Samson. C'est un exemple à fuir. Malgré toutes les paillettes qu'il y a autour de Samson, on en a même fait des films. Il faut fuir tout ça. Cet exemple-là, il est donné par... La Bible ne donne pas que des exemples bons. La Bible donne aussi des exemples pour nous inspirer, afin que nous soyons attentifs, afin de ne pas se tromper, afin de ne pas reproduire. Pour terminer, je vous pose une question, n'y répondez pas, parce qu'on est trop nombreux, ça va faire du bruit. Si l'Esprit de Dieu vous saisit et vous révèle que demain, dans 24 heures, demain midi, lundi midi, Jésus revient. Vous avez cette révélation. Vous êtes saisi par l'Esprit qui vous dit « Demain, Jésus revient ». Que faites-vous? Ne répondez pas. Que faites-vous? J'imagine que ça va être un choc. Et j'imagine que on prend des décisions. On se met à prier. On demande pardon. On prie pour notre famille, nos amis. On les rassemble. On leur partage ce qu'on a reçu. On veut qu'ils soient sauvés avec nous. Pendant 24 heures, on se tourne vers Dieu. On prie, on jeûne. Mais Jésus, est-ce que Jésus revient demain? Ça, par contre, vous pouvez répondre. Est-ce que Jésus revient demain? Alors moi, je dirais non. Moi, je dirais Jésus ne revient pas demain. Moi, je dirais Jésus revient maintenant. Jésus revient tout de suite. Et je dis ça pourquoi? Je dis ça parce qu'on a des vies chrétiennes qui parfois sont médiocres. Et je parle aussi pour moi. On a des vies chrétiennes qui sont loin de correspondre à ce que Dieu attend de nous. Nous avons des talents. Est-ce que nous les utilisons comme Jésus veut que nous les utilisions? Je pense qu'il faut que notre vie chrétienne, nous la vivions comme ça. Vivons comme si Jésus revient maintenant. Vivons comme si Jésus revient dans une seconde. Vivons toujours comme si Jésus revient maintenant. Parce que vivre en se disant « Jésus, il va revenir, mais je ne sais pas. Je ne sais pas quand Jésus va revenir. » Ça veut dire que dans ma vie, je ne sais pas comment me comporter. Je ne sais pas comment utiliser mon onction. Je ne sais pas comment utiliser mon talent. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas. Parce que je ne sais pas quand Jésus revient. Donc il y a plein de choses que je ne sais pas. Mais si je sais dans mon cœur que Jésus il revient de suite, alors je vais vivre comme si Jésus revient de suite. Comprenez ce que je veux dire? Voilà pourquoi je dis, ne gaspillons pas notre onction, ne gaspillons pas notre talent, mais au contraire, restons tournés tout le temps, en tout temps, tous les jours, en tout lieu, restons tournés vers Jésus. Restons tournés vers celui qui nous a pourvus, vers celui qui nous a sauvés, vers celui qui a donné sa vie pour chacun de nous. Restons tournés vers lui, parce qu'il va revenir et il va nous demander des comptes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, merci pour ta parole qui touche nos cœurs. Merci pour ta parole qui bouleverse nos vies. Oh, que cette parole reste dans nos cœurs, qu'elle y demeure, qu'elle y fasse sa place. Oh Seigneur, mets quelque chose dans nos cœurs, mets quelque chose de nouveau dans nos cœurs par la puissance de ton esprit, que nous puissions changer nos comportements, changer nos attitudes, que nous ayons un comportement nouveau, une attitude nouvelle tournée vers toi. Oh Seigneur, que ta parole travaille nos cœurs par l'onction de ton esprit. Seigneur, fais quelque chose de nouveau en nous afin que nos vies soient le témoignage véritable, le témoignage sincère de celles et ceux qui attendent ton retour. Merci pour ce que tu vas faire pour chacun de nous, Jésus. Amen.